avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je viens avec courtoisie, mais...
Oui, avec courtoisie,
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Amis du lundi, Hardy, bonsoir et bienvenue pour un nouveau rendez-vous de Restons Courtois, notre émission de débat avec L'Incorrect, avec Boulevard Voltaire et avec Valeurs Actuelles. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir un grand historien, le grand historien des totalitarismes, le maître d'œuvre du livre noir du communisme, le biographe de Lénine, le directeur de la revue Communisme pendant longtemps et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs.
Fini par l'arrêter.
C'est fini. Bon. Et le spécialiste français du Parti communiste français. Donc, je veux parler évidemment de Stéphane Courtois. Bonsoir Stéphane Courtois.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Avec vous, nous allons parler d'un sujet qui a été un peu évacué dans les suites du meurtre de Quentin Derenque, qui est la violence intrinsèque et quasi moralisante de la gauche et de l'extrême gauche. Alors, c'est une violence qui va de la mort sociale, l'ostracisme, la délation, l'interdiction de travailler, à la mort physique, au nom de valeurs supposées supérieures, et d'une sorte donc de messianisme fou, au sens où, s'ils sont le bien, la gauche et l'extrême gauche, et que tout ce qui n'est pas de gauche incarne le mal, il n'y aurait pas de raison de ne pas nous faire disparaître, nous qui ne sommes pas de gauche. Voilà, donc, on peut appeler ça comme on veut, l'antifascisme, l'autodéfense, voire ce que j'ai vu aussi sans rire, l'autodéfense préventive, ce qui est quand même tout à fait recherché.
C'est
comme...
plus prudent.
Et bien voilà, donc avec Stéphane Courtois, nous allons tenter de comprendre pourquoi ces gens, non seulement vous tuent, mais le font en plus avec cette confiance tapissée de pétales de rose qui semble être leur principe de base. Alors rendez-vous de la réinformation ensuite, avec un point finance, donc point finance avec notre repenti de la finance internationale, Étienne de Marsac, repenti donc, mais toujours au fait des mécanismes financiers, et avec lui nous parlerons des répercussions de la guerre en Iran sur l'économie mondiale. Nous reviendrons aussi sur l'étrange rapport entretenu par Donald Trump entre le pouvoir politique et la haute finance, puisqu'il y a quelques questions à se poser là aussi. Nous poursuivrons toujours avec l'Iran en parlant de l'évolution du conflit, avec la régionalisation notamment, hein, les pays du Golfe qui ont été touchés, mais aussi, on parle beaucoup des pays du Golfe, mais il y a aussi les frappes sur le Liban, pauvre Liban d'ailleurs, et ce qu'on croit comprendre, nous, depuis Paris, de la fragilisation du régime islamique et les risques qu'entraîne donc la régionalisation de cette guerre qui semble un peu partie pour durer. Nous reviendrons ensuite sur la finance, avec ce milliardaire rouge ou milliardaire rose, qu'est Daniel Kretinsky. Je n'ai pas inventé son nom, il s'appelle comme ça, Kretinsky, qui vient de sauver donc Libération pour la quatrième fois en 5 ans. Et en tout, donc, depuis 2021, ce milliardaire a donné 60 millions d'euros au quotidien anticapitaliste et wokiste. Et voilà, bon, on va s'interroger. Comment expliquer cette générosité? Comment expliquer une gestion aussi pourrie de la part de nos néanmoins confrères, puisqu'il faut bien les appeler comme tels? Comment expliquer aussi leur absence totale à eux, leur absence totale de scrupules, à prendre ainsi l'argent de ceux qu'ils condamnent tous les jours dans leurs articles? Voilà, ce sera nos petites interrogations du jour. Nous finirons par dire un mot sur la journée des droits de la femme qui avait lieu hier, ses origines, ses développements, ses mots d'ordre. Et à Paris notamment, le cortège est parti du quartier Stalingrad, qui est tout un programme, que ce soit pour la référence historique, comme pour le quotidien des femmes qui résident désormais dans ce quartier. Néanmoins, voilà, loin de la défense des femmes voilées à la goutte d'or, loin de l'asservissement des femmes afghanes, l'un des principaux mots d'ordre des féministes en goguette était la mise en garde contre le danger représenté par l'extrême droite à l'approche des présidentielles. Je veux dire, l'extrême droite en France. Voilà, donc j'ai une pensée émue pour Marion Maréchal, pour Sarah Knafo, pour Marine Le Pen, qui manifestement n'ont pas la place qu'elles méritent. Enfin, je ne sais pas comment elles pourraient aller plus haut dans leur parti, mais sans doute que nos féministes pourraient nous le dire. Et puis nous terminerons en disant un mot sur les différences de traitement politique et médiatique entre Ramadan et Carême, qui se déroulent en même temps, Et cette année, en tout cas, se déroule en même temps, puisque le Ramadan est une fête mobile. Et ce sera notamment l'occasion pour nous de dire un mot sur la RATP, qui a refusé une campagne de publicité de la revue Tribune Chrétienne. Et voilà, écoutez, pour parler de tout cela, j'ai l'honneur et la joie d'accueillir les jeunes gardes de la réinformation, mais, ou les vieux gardes, je ne sais pas, ou les gardiens de la réinformation, voilà. Mais donc, en nombre limité, encore une fois, ce soir, c'est vraiment la fin des vacances, on a hâte que tout le monde revienne au boulot. Donc, Richard Decesse, directeur de la rédaction de Radio Courtoisie.
Bonsoir.
Arthur de Vatrigan, directeur de l'Incorrect.
Bonsoir.
Et c'est tout, en tout et pour tout, puisque Alexis Poulain, Xavier Van Leerde et Jean-Yves Le Gallou ne sont pas là. Mais bon, on espère qu'ils seront tous présents la semaine prochaine. Et nous attendons donc Étienne de Marsac dans un instant. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions à Stéphane Courtois pendant toute une heure en écrivant un courriel à courtoisie@rc.fr, courtoisie@rc.fr, ou en téléphonant au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, courtoisie@rc.fr. Alors, je me tourne maintenant donc vers Stéphane Courtois. On a vu donc le meurtre de Quentin, jeune militant identitaire et catholique de 23 ans, donc lynché à Lyon par des gens se revendiquant de l'antifascisme, et qui l'ont tué donc en marge d'une conférence de Rima Hassan sur la Palestine à Sciences Po Lyon. Et ce meurtre donc a mis en lumière la violence de certains groupes d'extrême gauche. Mais les réactions des gens de gauche à cette mort, c'est-à-dire une tendance assez étonnante et impressionnante même, je pèse mes mots, à justifier ou à excuser ce meurtre, a aussi été une source de... comment dirais-je, d'instruction, enfin nous a instruit, oui, sur cette tendance qu'a la gauche, dans son ensemble, la gauche extrême, mais aussi la gauche dite modérée, à entretenir un rapport assez particulier à la violence, ou du moins à la violence que la gauche peut exercer contre ceux qui ne sont pas de gauche. Alors, voilà, on s'est dit qu'il n'y avait finalement personne de mieux et de mieux placé que Stéphane Courtois pour venir nous en parler. Donc, est-ce que la justification de l'éradication de la mort physique ou morale de l'adversaire politique fait partie de cet ADN historique de la gauche et de l'extrême-gauche?
Oui, ça remonte quand même très loin.
C'est la Révolution
bien sûr, la Révolution française. Hein, le fameux règne de la vertu et de la terreur du célèbre Robespierre. Alors, on sait où ça a mené, en particulier dans les cas extrêmes, la Vendée, hein, où on a quand même exterminé massivement une population... hommes, femmes et enfants, ce qui relève quand même quelque part du génocide. Hein, donc, mais ça n'est, il n'y a pas eu que ça. Il y a eu tous les guillotinés, hein, la terreur officielle du tribunal révolutionnaire, la terreur non officielle, mais, où les gens étaient néanmoins décapités. Donc, on a un creuset, je dirais, on a une matrice fondatrice, hein, et en particulier au nom de la vertu. Hein, ça, c'est quand même... Bon, ça ne s'invente pas. Alors, ça n'a pas duré, puisque à l'époque, le camarade Robespierre, si je puis l'appeler comme ça, n'avait pas encore mis au point une idéologie très structurée qui aurait justement servi de fondement absolu à ce type de démarche. Avec Marx, c'est différent. Marx invente une idéologie très structurée, hein, et il suffit de lire le manifeste du Parti communiste de 1848.
Qui contient la violence en soi.
Bien entendu, qui se termine sur « Prolétaire de tous les pays, unissez-vous ». Et puis, juste avant ce slogan final, il y a « Bourgeois, voilà, on vous renversera par la violence ». Bon, donc c'est assez clair.
Oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose, on nous dit toujours le communisme, on peut excuser les crimes du communisme parce que la cause était belle. Mais en fait, c'est quand même le principe essentiel, c'est la lutte des classes. Et l'idée qu'on arrivera au bonheur sur Terre que après avoir exterminé toute une partie de la population.
Absolument, c'est écrit noir sur blanc dans le manifeste, hein, et même au tout début du manifeste, hein, où voilà, toute l'histoire est l'histoire de la lutte des classes, et se terminera par la victoire d'une des classes sur l'autre, hein, ou même, alors, Marx envisageait même la destruction des deux classes en même temps. Bon, là, c'était la fin du monde, bon, mais tout ça au nom d'une théorie parfaitement délirante, Quand je dis délirante, je ne veux pas dire qu'il fallait mettre Karl Marx dans un hôpital psychiatrique. Délirante au sens originel du terme, c'est-à-dire déliguéré, hein, du latin, délié, délié de la réalité. L'idée d'une... Parce que c'est quand même le fond absolu du manifeste du Parti communiste. La suppression de la propriété privée qui est la cause de tous les malheurs. Bon, donc on supprime la propriété privée. Bon, moi je veux bien. Mais, excusez-moi, c'est totalement délirant, c'est totalement délié de la réalité que n'importe quel enfant de 10 ans comprend. Bon, hein, y a un boulanger, les propriétaires de sa boulangerie vendent du pain à des gens qui, eux-mêmes, etc. Bon, voilà, c'est l'histoire de l'humanité depuis, en gros, depuis le néolithique, ça fait à peu près, oui, ça fait quand même 10 000 ans à peu près. Bon.
Et donc, d'ailleurs, voilà, on n'a jamais réussi à mettre ça en place, même au sein des régimes communistes les plus parveux, enfin aboutis.
Si, ils l'ont mis en place et on a vu le résultat.
Oui, mais il y avait quand même...
C'est-à-dire un immense désastre.
On gardait quand même une notion de propriété privée. C'est-à-dire, on avait son appartement communautaire, on avait son stylo, sa voiture.
Vous aviez votre appartement communautaire juste au moment où le NKVD disait,
c'est vrai,
tiens,
oui.
Toi, hop, au goulag, toi, tu hop, plus, une balle dans la tête, etc. Hein, et sans parler des cas extrêmes, hein, la Chine de Mao du temps des communes populaires, etc. Et puis le cas cambodgien, quand même, qui est tout à fait...
avec les Khmer Rouges.
Ahurissant... extraordinaire, hein, parce que là, il n'y avait plus aucune propriété privée. Hein, c'est tout juste si chaque Cambodgien avait le droit à avoir son bol et ses baguettes pour manger, c'est tout. Hein. Donc, et il n'avait surtout plus la propriété de ses enfants, parce que dès qu'ils étaient un petit peu en âge de marcher, hop, on les kidnappait pour les former. Donc voilà, c'est le fond du problème. Hein. Le fond du problème, c'est vouloir faire passer dans des réalités ce qui est une utopie. Alors, le problème, c'est que nos gens de gauche, et surtout d'extrême-gauche, nous parlent d'utopie en permanence, mais ils oublient le sens du mot, qui est pourtant très clair. Hein, quand Thomas More a écrit sa fameuse utopie en 1516, c'était du grec, ou topos, le lieu qui n'existe pas, donc une cité imaginaire. Bon, bah, si c'est imaginaire, c'est imaginaire. Bon, hein, non, mais c'est très bien, c'est un magnifique exercice. En plus, c'était des jeux intellectuels entre Thomas More, Erasme, etc., ces grands humanistes de la Renaissance. Mais un certain nombre d'esprits un peu moins
brillants,
obtus,
oui.
Hein, ont pris ça pour argent comptant et ont tenté de vouloir faire passer ça dans la réalité. Quand ça ne passe pas, ça ne passe pas.
Oui, et là, l'ennui, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de se dire « ça ne passe pas », ils se sont dit « on va donc forcer la nature humaine à évoluer », et c'est ce qui distingue fondamentalement, d'ailleurs, l'homme de droite de l'homme de gauche, l'homme de droite se disant « l'homme est ainsi fait, essayons de le gérer le moins mal possible », et l'homme de gauche se disant « l'homme est ainsi fait, c'est quand même vraiment dommage, et on va donc en tuer un paquet pour... »
C'est la définition même du totalitarisme. Le totalitarisme n'est pas seulement une dictature destinée à changer le gouvernement, à imposer ceci ou cela. C'est véritablement une démarche anthropologique révolutionnaire destinée à changer l'homme. Bon, changer la nature de l'homme. Bon, on a vu là aussi les résultats, hein, c'est-à-dire c'est d'immenses désastres. Il faut quand même rappeler que tout ça se termine par des dizaines de millions de morts. Et de morts parfaitement innocentes, des hommes, des femmes, des enfants, puisqu'on a l'affaire ukrainienne en ce moment. Entre l'octobre 32 et juin 33, Staline fait mourir de faim au moins 4 millions de paysans ukrainiens, hommes, femmes et enfants. Bon, c'est tout.
Juste
qu'est-ce qu'il faut
pour
ajouter
qu'ils sont.
Tout ça pour s'emparer de leurs biens. Hein, parce qu'il s'agissait de la collectivisation. Ces gens résistaient à la collectivisation. La collectivisation consistait à prendre aux paysans tout ce qu'ils avaient, hein, et à le transférer dans des structures contrôlées par les communistes et où le paysan allait être à nouveau transformé en servage, mis en servage comme du temps des tsars. Bon, donc voilà, ce sont des choses pourtant qui maintenant sont très bien connues. Les archives sont là, tout est là. Enfin, tout,
ah, mais y a
tout un... n'est pas là, mais on a quand même toutes les archives qu'il faut pour le démontrer.
Il y a une tendance au déni, on pourra y revenir tout à l'heure, y compris aujourd'hui, c'est à un niveau, on va dire, malheureusement, absolument horrible et regrettable, mais néanmoins moins grave que l'extermination de millions de gens, mais rien qu'avec la mort de Quentin de Ranc, c'est-à-dire ce déni intégral des gens de gauche qui, en gros, ont cherché toutes les excuses pour dire « Oh, il a bien cherché, il ne fallait pas être là, c'était une rixe », alors que non, c'était un carnage, c'était une agression et un lynchage. Alors, c'est intéressant parce qu'on vient de parler un peu des différentes catégories de violence de la gauche depuis Robespierre. Donc, on a cette forme de nécessité philosophique ou morale. C'est-à-dire, nous incarnons la vertu, donc ils incarnent le vice, par définition. C'est-à-dire, si ce n'est pas la vertu, c'est le contraire.
Absolument.
Ensuite, on venait de parler de Staline, l'extermination devient une nécessité historique, c'est-à-dire qu'on met en place, et même avec Lénine, d'ailleurs, vous l'avez souvent montré,
oui, c'est Lénine,
Lénine n'est pas du tout le gentil flic et Staline le méchant flic.
Non, Lénine est le fondateur de tout ça, après Marx, mais Marx est un idéologue.
Marx reste un peu dans cette logique, quand vous parlez d'Erasme, de Rotterdam, ou bien voilà, et ça, il reste dans une espèce de philosophie.
Il était un peu dans cette logique, sauf que, après la Commune de Paris, il publie un livre qui s'intitule « La guerre civile en France », donc
peut-être
plus clair, et où il dit « Bon, ben, ça va pas du tout, hein, les communards ont fait n'importe quoi, ils devaient foncer sur Versailles, renverser le gouvernement, etc., liquider ces gens-là ». Et là, il appelle ouvertement à une révolution mondiale ultra-violente. Et c'est sur ce texte-là que Lénine rebondit.
Oui.
Hein, rebondit, parce que chez Lénine, l'idée de guerre civile est totalement fondamentale. Hein, bon, c'est d'ailleurs son slogan de base, après le début de la guerre de 14, hein, à l'automne 1914, transformons la guerre impérialiste en guerre civile. Ouais. Voilà,
et bon, d'ailleurs, avant, on nous parle aujourd'hui, on nous parle énormément d'antifascisme, antifascisme, antifascisme, mais avant, c'était l'anticapitalisme. Ah ben, et on n'a pas attendu le fascisme pour qu'il y ait de la violence de gauche, puisque bah, vous venez de parler de Lénine, mais après Karl Marx, on a aussi Sorel, qui théorise, alors dans un autre genre, plus anarchiste, mais qui théorise. Et puis on a aussi le mouvement anarchiste des années 1890.
Anarchisme, Bakounine, etc., bien sûr. Oui.
Et eux, alors, ils justifient au nom de quoi, ça, finalement, cette violence? Pourquoi ils tuent?
Alors, là, c'est un peu autre chose, parce que ça vient vraiment de Russie. Mm-hmm. Bakounine, Nechayev...
Et les anarchistes en France?
Oh ben les anarchistes en France, à côté d'un Bakounine ou d'un Nechayev,
c'est pas grand-chose.
C'est des gentils. Ils sont un peu gentils, ils sont un peu woke, ils sont un peu etc. L'amour libre, etc. Ça part un peu dans tous les sens. Et ils sont pas très violents en fait. Hein. Mais bon, du côté russe, c'est tout à fait autre chose. Hein. Il y a un texte fondateur qui est le catéchisme du révolutionnaire de Nechayev, hein, de 1869. Nechayev qui était en contact étroit avec Bakounine et là, ça vient de la violence russe, hein, parce qu'en Russie, il y a vraiment une culture de la violence qui tient d'ailleurs aux transformations de la société par le célèbre, tristement célèbre, Ivan IV, le tsar Ivan le Terrible, qui, en plein milieu du XVIe siècle, instaure le servage en Russie, c'est-à-dire met en servage des paysans qui étaient libres et les met en servage par la force. Bon, et donc, de manière inévitable, quand vous bridez la liberté des gens, en général, ils réagissent d'une manière ou d'une autre, et souvent par la violence. Hein. Effectivement, le régime tsariste était violent, beaucoup moins qu'on l'a dit d'ailleurs, beaucoup moins qu'on l'a dit, beaucoup moins que le régime soviétique, par exemple. Bon, mais il était quand même violent, et effectivement, ça partait, c'était sur le modèle de ce qu'on appelle en russe le bund. Le bund, c'était l'immense jacquerie, hein, comme il y en a une sous la Grande Catherine, hein, avec le célèbre Pougatchev, hein, qui a mis la Russie à feu et à sang pendant 2 ans, avec une violence extraordinaire. Bon, il a mal fini, le pauvre, hein, on ne va pas le plaindre. Mais voilà, c'est le bund, c'est la révolte ultra-violente des paysans qui rasent tout sur son passage. Bon. Hein, jusqu'au moment où le pouvoir est assez fort pour reprendre les choses en main, hein, et rétablir un certain ordre. Mais c'est là-dessus que Lénine a rebondi en 1917. Hein, parce qu'il faut quand même rappeler qu'en janvier 1917, Lénine, qui est en Suisse, qui n'arrive pas à sortir de Suisse, qui mijote dans son jus, là, fait une réunion publique où il dit « Nous, les vieux, il est probable que nous ne verrons jamais la révolution. » Bon. 6 semaines plus tard, ça pète. Bon, donc voilà, le grand génie révolutionnaire n'a rien vu venir, mais par contre, il est prêt. Et vous avez dit un mot tout à l'heure qui est fondamental dans toute cette histoire, c'est le mot nécessaire. C'est un des mots essentiels chez Lénine, la nécessité. La nécessité de la révolution, la nécessité de la violence, voilà, nous y voilà. Hein, la nécessité de la violence. Et alors, ça a été... C'est pour ça que d'ailleurs, le livre noir du communisme, en 1997... a eu pas mal d'échos, en particulier à cause de ses premiers chapitres sur, sur le système soviétique de mon collègue Nicolas Vert, parce que, ça y est, on avait trouvé les télégrammes de Lénine, tous les télégrammes secrets bien cachés, hein, qui ne figuraient dans aucun des 44 volumes des œuvres de Lénine, bon, mais qui étaient pourtant là, bon. Hein, et ces télégrammes, c'était quoi ? Pendez plus, trouvez des gens plus durs, etc., etc. Bon, c'est tout.
On a même des lettres de jeunesse de Lénine où il dit qu'il faut finalement encourager les famines paysannes pour inciter à la révolte.
Oui, c'est exact.
Donc, pour un pacifiste défenseur du peuple et des opprimés, c'est quand même...
Oui, et, oui, c'était la dernière grande famine du temps tsariste. C'était en 1894, si je me souviens bien. Hein, et où, où effectivement, Lénine disait « Cette famine, c'est très bien, ça va déconsidérer le tsar ». Mais en même temps, il n'oubliait pas d'envoyer une lettre au régisseur de ses propriétés en disant « Faites payer les paysans qui étaient en train de crever de faim ».
Lénine, ben oui. Ah oui,
ben bien sûr.
Ah ça, j'ignorais. Oui. C'est énorme.
Ah ben, c'est pas énorme, c'est une, c'est une vérité.
Ça coûte cher la vie en Suisse.
Non, non, mais c'est... Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment... Vous parliez du déni. Quand j'ai refait quand j'ai repris mon Lénine dans la deuxième édition, et puis pour un colloque, etc., j'ai repris ces choses-là, et je me suis référé sur la question de la guerre civile à un très gros volume qui a été publié en 1981 par les Presses universitaires de France, donc, qui à l'époque était une maison très, très reconnue. Aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait le cas, mais bon, à l'époque, c'était très reconnu, qui publie un dictionnaire critique du communisme. Un énorme pavé, avec tous les intellectuels du parti, 40 intellectuels, bon. Donc,
donne leur avis sur eux-mêmes et se trouve pas si mal.
On dirait, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Mais donc, je me reporte à ce dictionnaire critique du marxisme en me disant, bon, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur la guerre civile ? Puis, je n'avais pas lu ça depuis 25 ans, bon. Alors, je feuillette, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il manque une page. Il n'y a pas d'entrée guerre civile. Il n'y avait pas d'entrée guerre civile. Il n'y avait pas d'entrée guerre civile dans un dictionnaire de 800 pages consacré au marxisme. Alors que Lénine, que Marx a écrit ce fameux livre, La guerre civile en France, et que ce sont des intellectuels communistes français qui écrivent ce livre. Bon, moi, je ne suis pas freudien, mais bon, il y a un léger lapsus, comme on dit, bon. Hein,
un impensé.
Voire même un collapsus. Bon, c'est quand même... Alors, la réponse à ça, ça, c'était en 81. Quand il y a eu, vous vous souvenez peut-être, quand le livre noir du communisme a été publié, il y a eu une soirée chez Bernard Pivot. Et il y avait Roland Leroy, directeur... de longue date, du journal L'Humanité, bon, à qui j'avais tendu, c'était pas très gentil, mais enfin, en tant que vieux maoïste, hein, on peut quand même faire quelques, quelques petites embrouilles. J'étais venu avec l'original de L'Humanité pour la mort de Staline, hein, que j'avais montré, avec l'autorisation de Pivot, hein, que j'avais montré à la caméra, Staline, l'homme de la paix, aimé de tous, etc. Et j'avais dit à Roland Leroy, bon, excusez-moi, c'est bien votre journal, je me trompe pas. Bon, il était un peu gêné. Mais il était tellement gêné qu'à la fin, il a repris la parole. Il a dit, je crois que nous avons fait une faute énorme. Nous avions tout misé sur la guerre civile. Bon, quand j'ai entendu ça, moi, les deux bras me sont tombés. Je dis, mais on était en 97. 97. L'URSS était tombée, le mur était tombé, toute l'Europe de l'Est était tombée. Et d'un seul coup, Roland Leroy... J'ai presque envie de dire cracher le morceau. Ouais. Parce que nous, on ne participe pas aux réunions du bureau politique. On ne sait pas ce qu'ils se disent. Hein, mais bon.
Mais tout miser sur la guerre civile, où et quand ?
Ah bah ici. En tout cas,
en
pour
France.
Ce qui était de la France. Ah bah oui.
Ah, c'est intéressant.
Ah mais je l'ai... Je l'ai republié. J'ai d'abord vérifié. Hein, parce que j'ai demandé la cassette d'enregistrement. J'ai écouté 4 fois pour être sûr que mes oreilles n'avaient pas... n'avait pas tremblé, mais c'était quand même tout à fait étonnant. Hein, le patron de l'Humanité, membre du secrétariat du parti de longue date, l'alter ego de Georges Marchais, son concurrent, qui à la fin, alors évidemment, on était en 97, fin 97, bon, et en plus je pense qu'il avait, il avait parcouru au moins le livre noir du communisme qui était sorti depuis 2 jours. Hein, il avait dû...
Compulser, oui.
Et parce que... j'en étais témoin, parce que moi, j'étais en contact avec plein de vieux communistes, hein, qui avaient quitté le parti, mais qui étaient toujours, qui étaient toujours très sympathisants de l'idée, etc. Hein, et qui ont été, mais qui étaient littéralement traumatisés par le livre noir du communisme. Ils n'avaient jamais imaginé une seconde que Lénine avait pu envoyer ses télégrammes, donner ses ordres, etc. Ça, l'image d'un Lénine démocrate était tellement ancrée que... Ça, bon, ils tombaient des nues, complètement. Hein. Et effectivement, ils avaient intégré la fameuse opération de Khrouchtchev, le méchant Staline, le bon Lénine. Parce que quand même, quand Khrouchtchev a fait ça en 56, hein, le fameux rapport secret, la direction communiste soviétique, elle était très embêtée, parce que tous les gens qui étaient là avaient tous travaillé sous les ordres de Staline.
Khrouchtchev au premier.
Et Khrouchtchev, le bon papy Khrouchtchev, un homme couvert de sang, maintenant qu'on a les archives, couvert de sang.
Parce que Khrouchtchev, c'est Katyn.
Ah non. Khrouchtchev, avant, c'est la grande terreur à Moscou. 37.
Aussi, oui.
37. Il a tellement bien travaillé. Il a demandé des quotas supplémentaires d'exécution, etc., etc. Bon. Donc, après ça, il a été envoyé comme patron de l'Ukraine, où la grande terreur ne fonctionnait pas, parce que les Ukrainiens se protégeaient entre eux, même quand ils étaient communistes. Bon. Et donc là, il a fait le ménage, hein, avec le célèbre Nikolaï Iejov, le patron, l'abominable nabo du NKVD. Bon, et ensuite, il a poursuivi cette carrière, encore après 45, à nouveau le patron de l'Ukraine, avec encore une famine en Ukraine en 46-47. Enfin bon, Khrouchtchev, c'est un homme couvert de sang. Il a signé, par exemple, l'ordre de déportation de toutes les familles des officiers assassinés à Katyn.
Oui,
plus de 60 000 personnes.
Oui.
Bon, hommes, femmes et enfants, hein, femmes et enfants, des gens qui... Bon. Donc voilà le genre de personnage. Hein. Donc, il fallait qu'ils se dédouanent d'une manière ou d'une autre, et ils ont inventé... parce que c'est pas du tout une initiative personnelle de Khrouchtchev, le rapport secret. C'est une...
Oui, c'est une décision.
Sait maintenant, non, mais on le sait par les archives, ça y est, les archives sont sorties. Il y a eu des réunions du bureau politique sur comment on va s'en sortir. Alors, les vieux Molotov, Kaganovitch, Voroshilov, les vieux copains de Staline disent « Oh là là là, faut surtout pas soulever le couvercle, la marmite va exploser !» Et les autres... Et parmi les plus jeunes du Politburo, il y a deux ou trois petits jeunes qui étaient là, qui étaient arrivés en fin de course, là, mais qui étaient horrifiés, qui disaient mais c'était le diable !»« Ah ben peut-être, je croyais que vous n'étiez pas croyant, mais bon... Donc voilà, c'est des choses... Et c'est là qu'ils ont mis en place. Il fallait relégitimer le régime. De quelle manière? Le méchant Staline, le bon Lénine. Bon, à partir de là, ça y est, on est reparti. L'autoroute est reparti.
Alors, on a un auditeur qui nous pose une question. On va la lire juste après la question d'Arthur de Vatrigan.
Mais c'est ça qui est assez, qui me fascine toujours, c'est que à gauche, on cherche des incointances, je sais pas, via le chien de la grand-mère, de la cousine, par alliance de la grande-tante, qui aurait pas aboyé en allemand une fois pour dénier que le type est nazi, alors que le passif de ancien ministre ou journaliste qui se déclare encore stalinien, maoïste, c'est pas un sujet. Je me rappelle même d'une élection présidentielle, je crois, 2022, où les candidats passaient devant une classe, et puis les élèves posaient des questions. Il y en a là, c'est le camarade Roussel qui était passé, et puis une fille lui dit « Staline, on le met dans quel camp, les méchants ou les gentils ?» Et Roussel, il hésite. Il le met au milieu. Non, il le met au milieu en disant « Il a quand même fait des choses bien. »
Ah bah oui,
et si je c'est pas un sujet. Alors là, aujourd'hui, c'est... j'ai toujours été fasciné qu'on puisse se dire « J'ai été maoïste ou j'ai été stalinien, mais c'est pas grave. » Mais aujourd'hui, en tout cas de la France insoumise, il y a deux références qu'ils assument publiquement. C'est Robespierre pour le plus inculte et Trotsky pour Jean-Luc Mélenchon. Alors, Lénine voulait régler son compte, Staline aussi, Khrouchtchev aussi, Trotsky.
C'est la question de notre auditeur.
Ah, voilà. Parce qu'aujourd'hui, on a le droit de dire Trotsky, c'est bien.
Quel était le rôle de Léon Trotsky durant la révolution bolchevique?
Un rôle majeur. Un rôle majeur parce que Lénine est... Alors, Marx est un idéologue en chambre. Travaille en bibliothèque, c'est pas comme ça qu'on fait la révolution. Bon, Lénine, ça n'est pas un idéologue en chambre, c'est un idéologue d'action. Il organise un groupe précis, avec des projets précis, avec une nouvelle conception du Parti révolutionnaire, etc., qui va faire ses preuves d'ailleurs. C'est très efficace. Monsieur Mélenchon en a pris de la graine, d'ailleurs, il continue. Bon, hein. Donc voilà, hein, c'est vraiment. Mais attention, Lénine est un chef des. un chef d'état-major, je dirais, un général, un maréchal révolutionnaire, très prudent. Dès qu'il y a des risques, hop là, je file. L'avantage pour lui, c'est que Trotsky, avec qui il était pourtant en conflit ouvert, violent, verbal bien sûr, depuis 1904, et en particulier parce qu'il avait piqué sans se fatiguer le titre du journal de Trotsky, la Pravda, c'est Trotsky qui avait, c'était le journal de Trotsky. Lénine dit ça, c'est une bonne idée, je la prends, tac. Sauf que comme il a beaucoup plus de moyens financiers que Trotsky, ça marche mieux. Bon, mais évidemment, Trotsky, c'est un idéologue, bien entendu, mais c'est surtout un homme d'action. Bon, c'est-à-dire, Trotsky, c'est le type qui n'a pas peur. Déjà, lors de la révolution de 1905 en Russie, alors que Lénine est absent, Trotsky est aux premières loges. Il est président du Soviet de Petrograd, etc. Il est arrêté, il est condamné, il s'évade. Enfin bon, voilà, c'est un grand homme d'action. Hein. Et évidemment, il rentre en 1917 en Russie. Il se rallie à Lénine en disant finalement, bon, c'est lui qui avait raison. On va aller par là. Hein, la démocratie révolutionnaire, tout ça, bon, aucun intérêt. Faut y aller à fond dans la violence. Et c'est quand même lui qui crée l'armée rouge. Or, l'armée rouge, c'est une armée de guerre civile. C'est pas une armée nationale, l'armée rouge. C'est une armée de guerre civile. Hein, donc, et une armée de guerre civile qui va enfler jusqu'à 5 millions d'hommes à la fin de la guerre civile. Donc, c'est gigantesque. Et puis, surtout, l'armée rouge, ça va être le creuset d'une nouvelle génération qui accède au pouvoir bolchévique. Parce que les bolcheviks historiques, ils sont très peu nombreux. C'est quelques milliers d'hommes. Mais dès 1919-1920, le parti bolchevique, c'est 500 000, 600 000, 700 000 personnes.
Oui, ça devient les partis de masse comme les nationaux-socialistes en Allemagne.
Oui, et puis avec des gens qui se disent, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'on va tenir le manche. Bon, hein, et l'armée rouge est un des principaux canaux d'accès au pouvoir. Parce que là, on prend des petits gars, des petits jeunes, des Khrouchtchev, par exemple. Hein. Et puis, on les prend en main, on les forme, on les vérifie, si je puis dire, puisqu'on va les envoyer au combat. Alors, s'ils ne combattent pas, bon, bah, on aura vite compris qu'on va même éventuellement les liquider, parce que Trotsky a fait fusiller des dizaines de milliers de déserteurs. Bon, hein. Mais bien sûr, Trotsky est un homme essentiel de la fondation du pouvoir bolchevique dans la violence. Ça, c'est... Alors, bon... Mais c'était pour la bonne cause.
Évidemment.
Et comme... Non, mais...
Et la lutte antifasciste.
Comme il a été vaincu, comme il a été même assassiné par Staline, ça le purifie entièrement. J'ai lu des choses incroyables il n'y a pas très longtemps dans Le Monde, je crois. Hein, quelqu'un qui dit, mais moi, je suis anti-stalinienne. Donc voilà,
tout va bien.
Bon, tout va bien. Je suis pur comme l'enfant qui vient de naître. Bon, c'est tout à fait invraisemblable.
Ouais. Alors,
mais moi, j'aimerais quand même, on a beaucoup parlé des racines du communisme international. Les communistes français sont violents dès le début avec leurs adversaires. Bon, il y a des bagarres entre syndicalistes. Après ça, ils deviennent les chiens couchants des nazis pendant quelques années. Ensuite, en sortant de la Seconde Guerre mondiale... Ils reprennent la lutte à la fois ouverte et clandestine contre la France avec, si je ne m'abuse, un ou deux attentats, dont un attentat ferroviaire en 47-48, où il y a des morts, où le Parti communiste a toujours prétendu que c'était pas lui, mais il y avait tellement de militants communistes qui avaient été inculpés que c'était un peu compliqué quand même. Donc il y a quand même aussi au PCF vraiment une vraie tradition de violence indépendamment des grands anciens Rouskov.
Alors, il y avait déjà une tradition, Alors, le problème, c'est que le Parti communiste français, il faut toujours rappeler que c'est les trois quarts des délégués socialistes au Congrès de Tours qui ont basculé côté communiste. C'est pas une scission, c'est la majorité du Congrès qui bascule. Mm-hmm. Bon, alors ensuite...
Comme les bolcheviks, d'ailleurs, avec les mencheviks.
Oui, alors, le problème, c'est qu'assez rapidement, bon, un certain nombre de gens qui ont voté l'adhésion à l'Internationale communiste... En se disant, de toute manière, les bolcheviks sont loin, on risque rien, penses-tu. Ils arrivent avec la cravache, Trotsky, hein, il faut cravacher les Français qui ne marchent pas droit. Hein, et donc, voilà, c'est... Et donc, très vite, le tri se fait. Les bolcheviks sont d'extraordinaires, ils ont un service du personnel extraordinaire, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils testent les gens, et puis si le gars ne fait pas l'affaire, hop, dehors. Et celui qu'on repère et qui peut éventuellement faire l'affaire, alors hop, on le prend en main et on le propulse, hein, y compris des gens extrêmement violents. Donc, dès les années 20, il y a des affrontements violents. Les communistes tirent sur des gens d'extrême droite, bon, avec des morts, mais ils tirent aussi sur les anarchistes, avec des morts. Hein, beaucoup de communistes se promènent avec leur revolver, bon, c'est naturel, bon. Hein. Et puis alors, ça se durcit à la fin des années 20, hein, quand la ligne imposée par Staline devient de plus en plus dure, cette fameuse ligne classe contre classe. Donc là on est vraiment dans le manifeste du Parti communiste. Hein, c'est...
Alors, pardon, je vous coupe, mais est-ce que ça ne rappelle pas un peu ce que dit aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, toute proportion gardée, évidemment, mais dans l'idée, quand il dit à la fin, il ne restera plus que nous face aux fascistes,
mais
du
bien
RN.
Mais bien sûr. Mélenchon,
cette polarisation, Mélenchon en fait, cette façon rien. De dire Mélenchon... c'est eux contre nous et au milieu, il n'y a plus personne.
Oui, absolument. Et en particulier... Alors, c'est bien représenté par les fameux poèmes d'Aragon, hein, en 1930-31.
Feu sur Léon Blum.
Feu sur Léon Blum, feu sur les ours savants de la social-démocratie. Bon, on croirait entendre M. Mélenchon aujourd'hui. Ouais. Bon, donc voilà, c'est extrêmement violent et ça va très loin, puisqu'effectivement, à l'époque, le Parti communiste français, c'est une roue sans grande importance, l'international communiste. Les partis importants, c'est le Parti communiste chinois et le Parti communiste allemand. Et qu'est-ce qui se passe? Staline ordonne au Parti communiste allemand de combattre la République de Weimar en même temps que les nazis. Ils sont ensemble. Ils organisent des grèves ensemble. Ils cassent les meetings socialistes ensemble. Bon, et les communistes se disant, de toute manière, les nazis, c'est des faiblards. Ils vont peut-être prendre le pouvoir, mais 6 mois plus tard, on ramasse la monnaie et c'est nous qui gagnons. Ah oui, sauf que, bon, janvier 33, Hitler est nommé chancelier, et février-mars 33, tous les communistes sont en camp de concentration.
Oui.
Ou alors sont passés du côté nazi. Ou alors sont passés du côté des chemises brunes. Donc voilà. Et donc, c'est un immense désastre pour le camp communiste. Staline va... très vite, changer son fusil d'épaule, parce que Staline est quand même un éminent élève de Lénine. Donc, les tactiques peuvent changer du soir au matin, il n'y a aucun problème. Hein.
Mais comme Mélenchon.
Ah ben, comme, ah ben,
parce que Mélenchon est quand même passé d'un souverainisme de gauche à peu près compréhensible à une défense du wokisme et des militants LGBT, anti-islamistes. Il faut se rappeler ce qu'il disait sur les femmes voilées et la manière dont... Nous, on a vu de l'intérieur, parce qu'une partie des souverainistes de gauche sont passés au RN, donc on les a vus évoluer.
Oui.
Et Mélenchon a soutenu les LGBT à cheveux bleus, etc. Et maintenant, il les passe par perte des profits au nom des islamistes. C'est intéressant.
Même chose avec la religion.
Oui.
Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait, était un grand bonhomme franc-maçon. Bon. Les francs-maçons n'ont jamais tellement apprécié la religion, à ma connaissance. Bon. Et puis d'un seul coup, ah non! On jette ça par-dessus bord, hop, on va du côté des islamistes les plus religieux. Bon, donc voilà, c'est des virages tactiques. Staline fait son virage tactique. Dès la fin 1933, il y a un congrès à Moscou. Hop, on change tout. Staline, Hitler arrive au pouvoir. Il faut rappeler que depuis le début des années 20, entre la République de Weimar et l'armée allemande, il y a des accords secrets avec l'armée rouge. Et l'Union soviétique, hein, puisque le traité de Versailles interdit à l'Allemagne de réarmer avec un potentiel moderne, etc., etc. Donc tout ça va se faire clandestinement dans les plaines russes les plus éloignées, hein, jusqu'en 1933, encore quand Hitler est au pouvoir. Il y a encore des militaires allemands qui sont en Union soviétique, qui s'entraînent, etc. Bon, Hitler tient des propos tellement violents contre le communisme, etc., que bon, au bout du compte, Staline dit, bon, il n'y a pas moyen de s'arranger avec ce type-là. Bon, évidemment, en 1939, il aura changé d'avis à nouveau, hein, bon, au contraire. Bon, et donc, il lance cette politique antifasciste qui va avoir un succès absolument incroyable.
Alors ça, est-ce qu'on peut s'attarder un peu, justement, sur cette notion d'antifascisme, et notamment son côté à géométrie complètement variable du jour au lendemain? C'est-à-dire, on a quand même, dans les années 60, traité le général de Gaulle de fasciste. Or, ah oui, on peut dire beaucoup de mal du général de Gaulle, mais il était quand même un peu plus actif contre le nazisme que certains membres ou lecteurs de l'Humanité, au moins jusqu'en 1941. Donc,
c'est de beaucoup de socialistes oui. de 1940, bien sûr.
Et aujourd'hui, même fascistes sont traités de fascistes, des gens qui sont de pauvres sociodémocrates de centre-droit ou de centre-gauche.
Vous avez raison.
Macron, parce que, fasciste.
J'ai le souvenir, dans l'album de photos de famille, mes parents étaient allés en Italie en 1958, pendant l'été 58. Et mon père avait pris une photo d'une affiche du Parti communiste italien, grande affiche, où on voyait les trois abominables fascistes, Mussolini, Franco, De Gaulle. oui, c'est dans l'album de famille. Bon. Oui, mais bien sûr. Et en 58, les communistes faisait campagne sur le retour du fascisme avec le général de Gaulle.
CRSS,
comme Mathilde Panot qui explique que la France est en train de basculer dans l'extrême droite avec Emmanuel Macron.
Oui. Mais enfin, Madame Panot n'est pas la plus grande spécialiste de l'histoire de France. Elle l'a déjà montré.
Mais comment on explique ce genre d'absurdité auquel eux-mêmes, je suppose, ne croient pas?
Non, vous savez...
Est-ce que le degré
d'inculture historique de la jeune classe... LFI, c'est quand même assez terrifiant. Hein. Bon,
C'est vrai que Delogu ne connaissait pas le maréchal Pétain.
Non, il est député, le monsieur.
C'est vrai.
Et Madame Panot a prétendu que monsieur le numéro 2, comment s'appelle-t-il, de LFI...
Son nom m'échappe.
C'est Manuel Bompard.
Manuel Bompard.
Il n'y a pas de numéro 2, il n'y a qu'un numéro 1.
Oui, enfin bon, était un homme beaucoup plus compétent que Léon Blum. Bon,
ah oui. Elle a même prétendu que Léon Blum n'avait jamais exercé le pouvoir. Pardonnez-moi, Stéphane Courtois, je sais qu'on vous a lancé sur LFI. J'aimerais qu'on revienne sur les communistes des années 50. Oui. Voilà, et notamment les attentats de entre 45 et 50.
L'attentat de 47, il n'était pas très bien connu à l'époque parce que ça a été étouffé. Enfin, il y a eu des dizaines de morts. On fait dérailler, on se trompe de train. Hein, parce que, évidemment, les communistes avaient beaucoup de complicité à la SNCF. Donc, un cheminot dit... c'était pendant les grandes grèves de 1947, hein, des grèves insurrectionnelles, commandées depuis Moscou, quand même, hein, qui cherchaient à mettre le pays à zéro parce que les Américains lançaient le plan Marshall. Et Staline avait parfaitement compris que si le plan Marshall, ça marche, toute l'Europe de l'Ouest est sauvée. Et on ne va pas pouvoir... et puis alors là, le différentiel avec l'Europe de l'Est, au niveau propagande, ça va être difficile. Bon, donc, les ordres sont donnés de faire des grèves insurrectionnelles, extrêmement violentes, etc. Un peu partout, hein, même à Marseille, les élections municipales, on se tire dessus à la mitraillette, à la mairie, et tout. On a oublié tout ça. Hein.
On a oublié, et les communistes prétendent avoir toujours été impeccables et pacifistes,
oui,
etc.
Des cheminots signalent au parti qu'il y a un train de garde mobile qui va venir pour remettre de l'ordre dans les mines du Nord-Pas-de-Calais, etc. Très bien, on va le faire sauter. Et puis on se trompe de train. Donc au lieu de faire sauter le train des gardes mobiles, on fait sauter le rapide. Paris-Boulogne ou Paris-Calais, je ne sais plus. Et ça fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Et je sais très bien qui l'a fait. J'ai connu l'homme qui a fait ça. Bon, il est mort aujourd'hui. Paix à son âme, Pannequin, hein, qui était un résistant sérieux, mais qui...
Mais il a fait ça en quelle année? En
47.
Parce que les communistes prétendent aujourd'hui que jamais les communistes n'ont tué un seul homme en France. Voilà. Bon, et donc, évidemment, comme c'était des fascistes, on oublie tous ceux qui, les milliers qu'ils ont exécutés à la Libération. Mais après, voilà, il n'y a jamais eu d'attentat communiste en France. Ben si, un attentat qui a fait des dizaines de morts.
Oui, en voilà un. Mais il y a eu beaucoup de... Non, et puis il y avait une véritable terreur communiste, hein, dans les usines.
Ah, oui.
Dans les usines. Moi, j'ai connu des militants syndicalistes et socialistes. Hein, en 45, 46, c'était très simple. Quand il fallait voter pour un représentant du personnel, il y a un gars qui arrivait avec un flingue, dit « Tiens, toi, là, rentre dans le placard, voilà, clac, bon. Hein, on vote. Pour de bon, vrai, maintenant, ça... tu peux sortir. »
Pour de vrai?
Mais bien sûr.
Mais, oui, c'est
mais... Ah non, mais attendez, non, mais attendez, le niveau de violence des années 44, 47, 50, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, sauf peut-être dans le système narcotrafique, Mais bon, le système narcotrafique, c'est très particulier, et puis c'est pas politique.
Il peut y avoir des connexions.
Mais oui, on ne sait jamais, on va voir, comme dit l'autre. Mais là, c'était vraiment purement politique, et avec... C'est pour ça que la réflexion de Roland Leroy dans ce débat sur le livre noir du communisme a tellement scotché, si je puis dire. Hein, on a commis une faute énorme, on avait tout misé sur la guerre civile. Ouais, je dis, bon, là, ça y est, il a compris, parce que Leroy était un type, c'était pas Georges Marchais, hein, c'était autre chose. Bon, c'était un type nettement plus intelligent et cultivé. Et donc là, bah, il voyait... Et moi, je l'ai constaté avec plein de vieux communistes que je connaissais, quand le livre noir est sorti, mais ils étaient tétanisés. Ils disaient, mais c'est pas possible, c'est pas nous qui avons fait ça. Ah ben si, quand même. Vous avez chanté la gloire de tout ça pendant des dizaines d'années. Donc voilà, non, c'est... Et ils étaient totalement déprimés, hein, des gars... Non, mais des gars que je connais très bien, très sincères et tout, mais qui étaient totalement assommés.
Et en même temps, ils voyaient bien le comportement de leurs camarades, si je puis dire, au quotidien, dans la vie syndicale, dans la vie politique.
Mais c'était légitimé par la vertu, mon cher.
Ah oui,
et
d'accord.
Voilà. C'était légitimé par le sens de l'histoire. Alors, oui. Avec Marx, la vertu, bon, on évacue la vertu oui. devient le sens de l'histoire. Oui. Et le sens de l'histoire,
c'est
nécessaire.
C'est scientifique.
C'est scientifique, donc c'est nécessaire. Bon, alors on a bien vu que ça n'avait rien de scientifique. Bon, mais c'est resté nécessaire. En tout cas, c'était le point de vue de Lénine.
Et ce qui est fascinant aussi, c'est même quand ils sont pris la main dans le sac, même quand il y a toutes les preuves et tout, et là, on l'a vu en temps réel avec l'affaire de Quentin de Ranquin-Lyon, c'est cette capacité à immédiatement inventer un récit et de le bombarder avec une telle force, avec une telle vigueur, avec une telle croyance, et puis avec beaucoup de relais copains, que ça s'inverse, quoi. C'est quand même... Je veux dire, comment on peut expliquer qu'aujourd'hui, alors encore en plus à une époque où vous avez des réseaux sociaux, vous avez tout qui sait en deux secondes, comment on peut expliquer que ça marche encore? Parce qu'à l'époque où il y avait trois canards, l'humanité qui tirait je ne sais pas combien de millions, on imposait le récit, bon, pour le contrer, c'était compliqué. Là, n'importe qui peut dire non, c'est pas vrai.
Ah ben oui, mais enfin, vous l'avez dit, il y a des relais très importants. Hein. Oui. Vous avez des journaux...
Qui ont quand même remis en question.
Vous avez des journaux qui perdent de l'argent tous les matins, mais qui sont quand même dans les kiosques, qui sont diffusés, l'Humanité, Libération, vous l'avez cité, etc., hein, qui relaient complètement... Et qui relaient d'autant plus violemment et avec d'autant plus de véhémence qu'ils se disent aïe, si on reconnaît que les autres ont commis quelque chose d'abominable, alors comme on les soutient depuis tellement longtemps, on est impliqué. C'est là que c'est intéressant la réaction de Mélenchon. Bon, parce que c'est clair que pendant les deux premiers jours après la mort de ce garçon,
silence radio.
Oui. Ah, et les filles étaient tétanisées.
Oui, Mélenchon a contré très rapidement.
Ah, mais oui, mais quand même, il y a eu un temps de latence.
Il a expliqué qu'on pouvait taper, mais pas taper pour tuer.
Oui. Non,
c'est ce qu'il a dit tout de suite. Hein. Il a dit vous n'avez pas le droit de lui écraser la tronche s'il meurt.
Oui, mais après, il est passé à une autre étape.
Ah oui, bah, c'était pire.
Complètement différente, où c'est le fascisme. Autres, ouais. Alors, avec cette réflexion extraordinaire, cette tautologie extraordinaire, c'était toute leur défense. Si nous sommes antifascistes, c'est qu'il y a des fascistes. Ah, mes camarades, alors là, du point de vue historique, excusez-moi. les fascistes sont arrivés parce qu'il y avait des communistes en Italie. Parce que le fascisme, c'est quand même un phénomène historique précis.
Et c'est postérieur.
Bon, non, mais c'est pour ça que ce mot fascisme devrait être réservé strictement à ce qui concerne l'Italie de Mussolini, etc. Bon, c'est tout. Hein. Mais non... C'est devenu...
Sa généralisation à peu près n'importe quoi.
Oui, bah bien entendu.
C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron fasciste, il faut quand même arrêter de dire des salades. Quoi. Marine Le Pen, ça n'est pas vrai. C'est pas sérieux.
Bon, même Radio Courtoisie. Hein.
Oui. Absolument. Hein,
et je ne doute pas que, étant venu vous voir...
Vous aussi.
Je vais... écoutez, le fasciste Courtois, bon... Ah oui. Mais j'ai l'habitude depuis 50 ans, mais c'est pas grave. Non, mais c'est quand même le problème. C'est ce que tout le monde oublie. Si les fascistes italiens ont réagi comme ils ont réagi, c'est que Mussolini et un certain nombre de gens autour de lui savaient parfaitement de quoi y retourner. Il faut rappeler que Mussolini vient de l'aile d'extrême-gauche du Parti Socialiste Italien d'avant 14, hein, et qu'il connaissait, et qu'il était... Form- il était Et quand il s'est réfugié en Suisse, il a été pris en main, si je puis dire, avec, tout, avec aucun double sens dans cette affaire, par plusieurs femmes qui étaient des révolutionnaires russes, Balabanova et d'autres, qui, elles, connaissaient parfaitement Lénine, etc., tout ce dispositif, hein, et prenaient en main ce petit Mussolini très excité, en disant, attention, calmos, voilà, hein, un petit peu d'ordre et de méthode, bon. Hein, et si Mussolini fait le fascisme, il le fait en copiant, évidemment, les méthodes de Lénine. Hein, et c'est même lui, d'ailleurs, c'est ça qui est extraordinaire, c'est lui qui... C'est pas lui qui l'invente, mais c'est lui qui relaie immédiatement le mot totalitaire. Hein, dès 1925, nous ferons un État totalitaire. Bon, c'est étonnant, hein, c'est assez étonnant, mais enfin, Mussolini... Il avait quand même un certain cerveau, il avait parfaitement compris les choses. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, le problème, c'est que dans l'Italie fasciste, ce projet totalitaire de Mussolini, qui était un projet révolutionnaire, comme tout projet totalitaire, se heurtait à des circonstances un peu particulières. Il y avait le Vatican, il y avait la puissance de l'Église catholique en Italie.
En Italie, oui.
Hein, et donc voilà, il a fallu... Et puis, après tout, Mussolini n'était jamais que le premier ministre d'un roi, ce qui n'est pas très totalitaire, il faut bien le dire, hein, parce que, là encore, c'est la même chose. Tout le monde confond en permanence totalitaire et autoritaire, mais c'est deux termes antagoniques. Hein, bon, un régime autoritaire, ça peut être une dictature, hein, que ce soit Napoléon III, Franco, etc., mais ce ne sont certainement pas des régimes révolutionnaires. Au contraire, ce sont des régimes soit conservateurs, conservateur et modernisateur.
Et j'aimerais bien revenir, vous venez de nous dire en fait que Mussolini a réagi finalement effectivement à l'existence d'une menace bolchevique.
Chronologiquement, ça ne se discute pas.
Mais il y a deux autres moments dans l'histoire avec cette charge, cette inversion accusatoire des communistes qui disent « Ah ah, nous sommes les gentils et il y a des méchants », c'est la guerre civile en Espagne où on réagit quand même aux brutalités des communistes, et puis un sujet qui me tient à cœur, moi, qui est le maccartisme, parce que je défends je ne pense pas que McCarthy était un monsieur fort sympathique, mais je défends le maccartisme au sens où ça se passe quand même dans un monde où c'est Staline qui règne en face et où on a une volonté d'abattre les démocraties et où finalement le maccartisme, ça joue beaucoup sur le droit américain où il suffit juste de dire oui, non, je suis communiste et si on dit oui, à la limite, on n'a pas de problème. C'est le fait qu'il nie qui fait qu'il y a des problèmes.
Le maccartisme, c'est une affaire qui a été entièrement montée en mayonnaise ou en crème chantilly par les communistes.
Oui. Et notamment les communistes hollywoodiens qui ont quand même des caricatures de
la
gauche caviar.
Le maccartisme commence au moment où le pouvoir américain s'aperçoit, parce qu'il y a un type des services soviétiques qui a fait défection au Canada, s'aperçoit que les États-Unis sont totalement infiltrés d'espions soviétiques depuis des années et des années, et en particulier sur la question de la bombe atomique. Ce qui, là, dérange beaucoup quand même. Hein, donc, la réaction de Truman est assez violente, hein, en disant, bon, faites-moi le ménage là-dedans, etc. Mais le maccartisme n'a provoqué la mort de personne, hein.
Comment ? Et que faites-vous des époux Rosenberg ?
Ah ben les époux Rosenberg, excusez-moi, ils étaient coupables.
Oui.
Le président Eisenhower était près de son téléphone en disant « S'ils reconnaissent qu'ils sont coupables, je les gracie immédiatement », alors qu'ils étaient déjà sur la chaise électrique. Bon, c'était des vrais communistes complètement fanatiques. Bon, ils ont préféré abandonner leurs enfants plutôt que de reconnaître qu'ils avaient effectivement
espionné.
Bon, c'est un choix. Alors les uns disent c'est sensationnel, c'est merveilleux. Les autres disent c'est imbécile et pitoyable. Bon,
ça révèle beaucoup sur la nature humaine de ces gens-là.
Attendez, là on tombe dans un autre domaine qui est typique du communisme et du totalitarisme en général, c'est-à-dire des noyaux durs de ces régimes. Le fanatisme. Regardez l'Iran aujourd'hui. Bon,
oui. Faudra qu'on en reparle, parce que l'heure passe, mais j'aimerais bien qu'on conclue peut-être notre rencontre sur les Iraniens. Donc, pas encore maintenant, mais voilà. On a un message d'auditeur, oui.
On en a plusieurs, mais voilà. Votre émission fait du bien en ce moment où les médias de grand chemin nous abreuvent de messages antifa. Taper sur le cœur pourri de la Révolution rouge, mais de manière objective, permet de bien comprendre qui sont les méchants dans le camp du bien.
Et bien ça fait du bien à un auditeur objectif, voilà. Lui aussi.
Une question. D'après vous,
je ne suis pas le docteur Courtois.
Mais oui, mais d'après vous, peut-on comparer le progressisme au communisme, qui sont, autrement dit, peut-on comparer le macronisme au communisme, puisqu'ils sont tous les deux une internationale?
Oui, alors, il faut quand même remettre les choses en place. L'internationale créée par Lénine, c'était une multinationale de la subversion, hein, extraordinairement organisée. On a maintenant toutes les archives. Il y a d'ailleurs, je vous signale d'ailleurs qu'il y a un livre qui vient de sortir d'un jeune collègue qui s'appelle Sylvain Boulouk et qui a soutenu sa thèse et qui vient de la publier aux éditions du CERF sur l'histoire de la CGTU, Confédération Générale du Travail Unitaire, c'est-à-dire la centrale syndicale créée par les communistes en 1921-22 et qui s'est ralliée à la grande CGT en 1935. C'est... Je croyais quand même connaître un tout petit peu l'histoire du communisme français. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai lu ça, parce que Boulouk a passé 2 ans à Moscou, il a ratissé toutes les archives qui concernaient cette affaire. Bon, il a mis beaucoup de temps à faire sa thèse pour des raisons XY, mais ça y est. Et c'est tout à fait ahurissant de voir que toute une partie de l'activité syndicale en France, dans les années 20 et 30, était pilotée très précisément depuis Moscou, et par un type qui connaissait parfaitement la France et le mouvement syndical français, qui s'appelait Lozovski, qui avait été le secrétaire du syndicat des casquetiers à Paris avant 14, hein, qui ensuite avait rallié Moscou, avait rallié les bolcheviks, avait été propulsé très rapidement à la tête de l'Internationale syndicale rouge, hein, parce qu'au sein de l'Internationale communiste, il y avait différentes succursales, dont le syndicalisme. Hein, et donc voilà, c'est... Mais c'est incroyable. Alors, sans parler de l'argent, parce que l'argent coule à flot, et l'argent, on oublie... Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est que l'argent permet de payer des permanents. Ça a été la force des communistes pendant toute leur histoire. On paye des permanents. On paye des gens qui préparent la révolution jour et nuit et qui sont payés pour ça.
Mais les socialistes... Ça s'appelle fonctionnaire, monsieur.
Oui, apparatchik. Bon... donc voilà, hein, mais évidemment, si on touche l'argent de Moscou, là, il faut obéir strictement aux ordres. Bon, mais pour revenir à la question de la violence, il faut quand même rappeler, pour vous montrer les filiations, en 1931, l'Internationale communiste a fait publier un livre qui s'appelait « L'insurrection armée ». Bon, c'est clair, c'était pas Intifada, c'était « Insurrection armée ». Bon, un gros livre... Expliquant comment faire une insurrection armée, comment s'étaient déroulées des insurrections armées en Chine, à Berlin, etc. etc. Tout ça sous les plus hautes autorités, le général en chef de l'armée rouge, Tukhachevski, etc. etc. Bon, 1931. En 1970, Maspero, le grand éditeur d'extrême-gauche de l'époque, republie le livre. Moi, je tenais une grande librairie maoïste à l'époque, je vendais l'insurrection armée à tout va. Et qu'est-ce que je vois? Je vais sur Internet, mais je vois que ce livre vient d'être publié.
Quand?
Là? Là!
Ah oui.
En 2022, par un éditeur d'extrême-gauche en Belgique, qui s'appelle Aden, si je me souviens bien. Donc voilà, vous vous rendez compte? Tout ça vient directement de chez Staline. Hein, bon, mais ça continue. Bon, c'est comme la Jeune Garde.
Oui, hein, la jeune garde. Le mouvement de LFI.
Le mouvement de LFI.
Tient lui aussi des racines historiques. La Jeune Garde, ne choisi par hasard.
Ah ben non, ah ben pas du tout par hasard.
Surtout, non, mais c'est important de le dire pour les plus jeunes auditeurs, peut-être.
Surtout de la part de son fondateur, le député...
Raphaël Arnaud,
qui, avant d'être du côté LFI, était côté NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, le faux-né de la Ligue Communiste Révolutionnaire. Bon, or...
Alors la Jeune Garde, c'est quoi, donc?
La Jeune Garde, c'est un chant que... Tous les gauchistes ont chanté à tue-tête pendant des années, moi aussi, bien entendu. Hein. C'est un chant qui avait été créé pour les jeunes gardes socialistes avant 1914, mais qui n'était pas un chant très violent.
Vous le connaissez encore?
Ah oui.
Vous pousseriez la chansonnette pour les auditeurs de Radio Courtoisie?
Je vais peut-être vous pousser un peu la chansonnette, hein, mais seulement... on y va. Alors attention, parce que moi, heureusement, dans les manifestations, on ne m'entendait pas. Hein, je ne faisais pas dérailler toute la manif. Bon, hein. Alors, nous sommes la Jeune Garde, nous sommes les gars de l'avenir, élevés dans la souffrance. Oui, nous saurons vaincre ou mourir. corruption. Hein. Nous combattons pour la bonne cause.
Ah, bah oui.
Ah, bah voilà. Hein. Pour délivrer le genre humain. Oh, bah, rien de moins. Tant pis si notre sang arrose le pavé sur notre chemin, enfin, surtout le sang
le
des
sang
autres.
Des autres ouais.
Et puis alors, le refrain est toujours très intéressant. Prenez garde, prenez garde. Vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés, les curés, v'là la jeune garde. V'là la jeune garde qui descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence. Bon, international. C'est la revanche de tous les meurs de faim. C'est la révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde à la jeune garde. Hein. Et puis, alors, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai vérifié, il y a un dernier couplet. Alors, c'était un chant socialiste. Les communistes s'en sont emparés, bien entendu, puis ensuite tous les gauchistes. Mais il semblerait qu'une dernière strophe ait été rajoutée par Aragon. On dit qu'Aragon, ce qui ne serait pas surprenant, puisqu'Aragon a écrit des poèmes ultra-violents en 1930-31, Front Rouge, etc.
Une ode au GPU.
L'ode au GPU,
le GPU
oui,
étant l'ancêtre du NKVD et du KGB.
C'est
comme si on avait une ode à la Gestapo. Quoi.
Alors, ça va vous faire rire, vous allez voir. Hein. Pour que le peuple bouge, nous descendrons sur les boulevards. La jeune garde rouge fera trembler tous les Richards. Nous, les enfants de Lénine. Alors, à l'époque, on disait nous, les enfants de Lénine et de Staline et de Mao. Bon, les autres disaient et de Trotsky. Bon, hein. Nous, les enfants de Lénine, par la faucille et le marteau quand même. Hein. Et nous bâtirons sur vos ruines le communisme ordre nouveau.
Oh, c'est rigolo.
mais bon, alors ça,
c'était l'autre.
Dans les dernières dizaines d'années, ça a été modifié en monde nouveau.
Ah.
Vous êtes rassurés.
Il tient bon. À l'actualité.
Non mais donc voilà, vous avez toute une génération,
oui,
toute la génération
qui
de 68,
là-dedans, oui.
Complètement.
Et qui y croit.
C'est-à-dire que vous y croyez à fond.
Oui, oui.
Moi, je n'y crois plus beaucoup. Hein,
j'espère. Avez... Mais des gens comme Raphaël Arnaud ou ses petits assistants parlementaires,
mais ça sort directement de là.
Au point d'aller massacrer
Mélenchon, il a forcément chanté ça à un moment ou à un autre. Bon, donc voilà, il n'y a rien vraiment de très nouveau.
De nouveau, ouais.
On est dans une mythologie, en fait. On est dans une mythologie qui se poursuit, en dépit du fait qu'on devrait comprendre que cette mythologie a mené à d'immenses désastres. Parce que quand même, bon.
Oui. Et pas que des... Enfin, les morts, c'est le plus grave, mais il y a aussi les régimes, simplement, qui existent. Mais... C'est-à-dire Maduro au Venezuela, Castro
sûr,
à Cuba.
À Cuba bon.
Et qui sont, d'ailleurs, totalement évacués dans le bilan, si je puis dire, des gens des LFI. C'est-à-dire, pour eux, seul compte l'antifascisme.
Oui, non, mais...
Et le bilan des gens qu'ils défendent est totalement évacué. Alors ça, il y a eu comme une forme d'amnésie ou de...
Et ils continuent à le défendre, hein, Maduro,
ils ont fait des manifs
pour libérer Maduro.
Oui, c'est pire que de l'ignorer, ils le défendent.
Ah bah oui, non, mais...
Ils font des manifs pour libérer Maduro,
vrai, oui, je me trompe.
Vous parlez de bilan, en fait, il y a un refus de bilan.
Oui.
Parce que si on faisait vraiment un bilan...
Ou pas... alors, ils l'approuvent. Et au fond, c'est ce qu'ils pensent nécessaire...
Mais évidemment...
Avant l'apothéose humaine du bonheur sur la Terre.
S'il y a un refus de bilan, c'est qu'ils ne veulent pas... Que soit reconnu publiquement, qu'il l'approuve, bien entendu. Parce qu'il l'approuve.
Oui, parce qu'il l'approuve, en fait, le vrai problème.
Il n'y a pas eu de victoire encore pour un... Faire un bilan, c'est soit dire on a perdu, soit dire on a gagné.
Oui.
Tant qu'ils n'ont pas gagné, ils continuent.
Ah ben non, parce qu'il n'y a pas encore...
aussi cette idée-là. Hein.
Même l'Union soviétique n'avait pas accompli le rêve communiste.
Ah, bien sûr,
l'Union socialiste.
L'homme nouveau, ça continue, donc tu ne fais pas de bilan. Et puis ça va t'arranger.
Le célèbre petit livre de M. Alain Badiou. Comment ça s'appelait? Enfin, en gros, c'était le communisme, une idée qui n'a pas encore été mise en application.
On n'a jamais donné sa chance aux communistes, parce que les capitalistes ils ont toujours empêché d'aller au bout. C'était vraiment fabuleux.
Ils défendaient Mao jusqu'à pas si dans une émission assez récemment sur France Inter, en expliquant que Mao, 2 millions de morts, c'était un détail, et que c'était pas ça le sujet. Mais il y a 4-5 ans, je crois, avec Laure Adler.
Ouais. Oui, oui.
2 millions de morts.
Il avait oublié d'ajouter un zéro et de multiplier par 3.
Oui, non, parce que c'est pas que 2 millions de morts, le Mao.
C'est ce qu'il avait dit.
60 millions.
Il avait dit 2.
Ah oui, enfin 60
oui, oui.
millions.
Non, mais là aussi, on est dans le déni.
C'est quand même énorme. Le problème, c'est qu'il reste plus grand monde. Mais ensuite, il y a eu quand même, parce que il y a eu à chaque fois, on voit quand vous racontez toute l'histoire, et puis même dans la gauche, en fait, dans les gauches, on se dit, les idées, finalement, c'est pas trop ça. Ce qui compte, c'est la croyance. En gros, c'est pas des idées, c'est une croyance, une foi, c'est une identité et c'est une méthode. Et puis après, on plaque. Mais alors, quel était le... Parce qu'il y en a qui sont plus très sexy, qu'on cite plus. mais il y en a qu'on cite encore, Marcuse et Gramsci. Comment ils ont un peu, justement, révolutionné, remis un peu au goût du jour, justement, l'idée révolutionnaire, et puis créé une nouvelle génération aussi, même avec des modes d'action, avec des stratégies différentes. Quel impact ça a eu ?
Mais c'est toujours la même chose. Il y a un noyau dur qui est indiscutable. C'est du Lénine, c'est du Marx, après la Commune de Paris, c'est du Staline, c'est du Mao, c'est du Pol Pot. Ça, c'est le noyau dur. Évidemment, ce noyau, il diffuse. Donc, alors, vous posiez la question des progressistes. Bon, vous avez le noyau dur, et puis plus on s'en éloigne, mais on a, c'est la formation, hein, c'est Annick Riegel qui expliquait ça, le communisme, c'est comme un oignon. Donc, il y a le cœur de l'oignon, et puis ensuite, il y a les pelures qui s'ajoutent, hein, alors avec les membres du parti, puis les électeurs, puis les sympathisants, puis les idiots utiles, puis, ça peut aller très loin, hein, jusque dans l'église, etc. Bon, donc voilà, le problème, c'est que ça diffuse, alors jusqu'où ça diffuse? Bon, après le livre noir, après la publication du livre noir, ça a quand même cassé la diffusion. Et puis, je l'ai vécu directement, hein, parce que, bon, je peux vous dire que ça a été chaud, mais dans l'université, au CNRS où j'étais, etc., hein, bon, j'avais des collègues qui exigeaient ma démission et tout ça, hein, c'était...
Malgré 1 million de ventes quand même, hein. On parle d'un livre qui, c'est pas un petit succès d'estime pour un universitaire.
Plus d'1 million de ventes dans le monde, 27 traductions, etc. Bon, mais ça, ça les intéresse pas, hein. Ce qui les intéressait, c'était de me dézinguer, évidemment, puisque je dérangeais. Mais c'est vrai que ça avait cassé à un moment donné, et puis ils se sont très vite repris. C'est-à-dire que communistes, trotskistes de diverses obédiences, socialistes plus à gauche, etc., tous ces gens-là qui se tiraient dans les pattes, d'un seul coup, ils se sont dit « Oh là là, là, on sent le vent du boulet, il faut absolument resserrer les rangs. » Et ça a été l'effet très paradoxal du livre noir du communisme, qui aurait dû définitivement casser toute cette construction baroque, eh bien, c'est le contraire. Ça a resserré les rangs. Hein, et sur des bases idéologiques, bon. Et puis alors, avec de nouvelles idées, bon, tout ce qui est venu des États-Unis, le wokisme, etc. Mais qui est du totalitarisme. Hein, c'est de la pensée totalitaire, ni plus ni moins.
Oui, et puis c'est toujours une forme de lutte contre. C'est-à-dire que c'est la lutte des classes qui a été substituée par la lutte des sexes, la lutte des genres, la lutte des...
Il n'y a plus d'ouvriers, alors on ne peut plus faire...
Et est-ce que ce n'est pas un peu une impasse quand même, ça, ce côté? Est-ce que ce n'est pas un espoir, d'ailleurs, pour tous ceux qui ne sont pas élitistes?
Alors, ils ont transformé ça en décolonialisme, ce qui est normal. Il n'y a plus de colonies.
Oui.
On ne peut plus faire de l'anticolonialisme, donc on fait du décolonialisme. Oui, sous prétexte que le colonialisme est rentré dans la tête des gens. La décolonisation, c'était il y a plus de 60 ans, ça fait déjà 2 ou 3 générations, n'en parlons plus, mais non, on continue. Bon, et ce qui était très intéressant, c'est que, regardez comment ça se passe, parce que le livre noir est sorti en 97, 2 ans après, ou plus tard, le même éditeur, dans la même typographie.
Ah oui, il fait un livre noir de la colonisation.
Un livre noir de la colonisation, sous la direction de qui ? De Marc Ferraud, qui était... Ouais. Paix à son âme, mais qui était étroitement associé aux soviétiques. Hein. Donc voilà. Alors, un livre qui n'avait
qui
ni queue ni tête.
Pas eu le succès,
Oui, un livre qui n'avait ni queue ni tête, ça n'a aucune importance. Paf, on marque...
On marque le coup.
On marque à la culotte, comme on dit au football.
On fait un parallèle.
Et on fait un parallèle.
Et une équivalence. Hein,
voilà. Et donc, il y a le bon combat, le décolonialisme. Il y a le mauvais combat, c'est le décommunisme.
Oui.
Voilà, c'est tout. Bon, c'est du béaba, j'ai envie de dire, mais bon...
Alors, on parlait tout à l'heure de cette manière qu'ils ont de s'acoquiner avec tout un tas de gens. En ce moment, la LFI, c'est les islamistes. Et ça rappelle un petit peu d'ailleurs ce qu'ont fait les communistes en Iran, pays dont on va parler aussi dans pas longtemps. Et est-ce que vous y voyez un parallèle et est-ce qu'on peut imaginer des conséquences semblables? Parce que ça a mal fini, en fait, le communisme en Iran.
Ah, très très mal, oui. Oui, oui. Oui, les universités, moi j'ai vu ça à l'époque, parce que à la fac de Nanterre, j'étais en, 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 je travaillais étroitement avec Annick Riegel, elle avait un master, etc. Enfin, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, peu importe. Il y avait des étudiants et des étudiantes iraniennes, sans voile, hein, je peux vous rassurer. Et donc, on était très informés de ce qui se passait, et les universités iraniennes étaient marxistes à 100% et anti-impérialistes. Étant anti-impérialiste, abat le Shah, abat les Américains, vive Khomeini. Oui, Khomeini, il a dit, oui, très bien. Je l'ai laissé venir à moi les petits-enfants. Et puis, une fois que ces gens-là ont contribué à faire tomber le Shah, etc., en criant au crime de la SAVAK, la police politique du Shah, etc., oui, quand on voit ce qui s'est passé après, c'est comme pour le tsar, ça. Hein, les abominables crimes de l'Okhrana. Vous savez, dans les archives, il y a eu un moment délicieux. Dans les archives de préparation du 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique, du fameux rapport secret de Khrouchtchev, le bureau politique a demandé au KGB et à la justice soviétique de lui établir un état aussi fiable que possible du nombre de victimes sous le tsar et sous le régime soviétique. Et les gens ont fait leur travail. Bon, le bureau politique est ressorti de là chaos debout. Parce que sous le tsar, on comptait comme assassinat politique de gens condamnés et exécutés. Parce que sous le tsar, il y avait beaucoup de condamnations à mort, mais qui n'étaient pas exécutées. Hein. Donc, on arrivait sur 50 ans, un total d'environ un peu plus de 6000 personnes.
C'était 6000 une personnes. Bonne semaine.
Bon, voilà, vous rajoutez 2 ou 3 zéros, et là, vous avez le résultat des soviétiques. Donc, le bureau politique était totalement tétanisé. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est les chiffres officiels, ultra secrets, bien sûr, mais de nos propres services. Bon, donc là, il fallait qu'il y ait... Non, mais c'est pour vous dire que eux-mêmes... Évidemment, ils sont pris. Il faut rappeler une chose. La terreur sous Lénine et sous Staline, c'était quand même des choses très secrètes. Bon, la grande terreur de 1937-38, hein, de juillet 37 à octobre 38, c'est quand même plus de 700 000 personnes assassinées d'une balle dans la tête, et personne n'en sait rien. Tout le monde sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas ce qui se passe. Encore au début des années 80, Le principal spécialiste américain de l'Union soviétique, dans la jeune classe, John Argetti, publie un livre en parlant des quelques milliers de victimes innocentes de la Grande Terreur. Bon, quand enfin les rapports du NKVD sortent, extrêmement précis avec toutes les opérations et tout, plus de 700 000.
Bon, je vous ramène à nos amis communistes iraniens. Qu'est-ce qu'il y a?
Nos amis communistes iraniens, les fameux Moudjahidine de la Révolution, Moudjahidine du peuple, avec ce couple absolument ahurissant qui dirige ce groupe de manière, avec un culte de la personnalité totalement ahurissant. Moi, je les ai encore vus, à Paris, sur l'esplanade des Invalides, hein, pas dans un petit coin perdu, sur l'esplanade des Invalides. Avec forcément une autorisation de la préfecture, il tenait une espèce de meeting, hein, ultra discipliné, voilà, hein, tous à une centaine, peut-être plus que ça même, en rang, debout, etc., avec un chef et un micro qui lançaient des slogans, et tous y reprenaient. Bon, c'était totalement ahurissant. Bon, ça n'avait pas l'air de gêner les passants, d'ailleurs, c'était juste à la sortie du métro. Mais bon, c'est un groupe purement totalitaire. Bon,
oui,
c'est tout.
Mais qui s'est fait liquider par Khomeini.
Alors,
les communistes.
Oui, ceux-là, ils étaient en relation assez étroite avec la Ligue communiste révolutionnaire. Moi, j'ai vu des amis de la Ligue communiste révolutionnaire qui les aidaient, etc., à organiser des réunions clandestines, tout ça, ou des petites manifestations, etc. Bon. Donc voilà, c'était pas des communistes orthodoxes, hein, parce que chez les communistes, vous avez toutes les chapelles. Donc, mais bien sûr, tous les marxistes ont été liquidés par les mollahs, oui. Ah ben oui, mais bon.
Bon courage à nos amis de LFI. Malheureusement, le temps nous presse. Oui. Mais comment vous voyez, justement, est-ce qu'il, à votre avis, alors vous n'êtes pas criminologue, mais est-ce qu'il y a une manière de mettre fin un jour à cette violence d'extrême gauche?
Oh oui, c'était très simple.
Raymond Marcellin.
Raymond Marcellin. Moi, je rentre. Hein, si j'étais croyant, tous les matins, je ferais une prière pour Raymond Marcellin. Bon, il faut rappeler qu'en 1968, au moment du mouvement de mai 68, le général de Gaulle était absent de France. Il était en visite officielle en Roumanie, et où il recevait d'ailleurs un accueil triomphal. Il en était ravi. Mais il a été obligé de revenir dardard parce que ça se passait mal ici. Bon, il y a eu un conseil des ministres, où les ministres étaient évidemment très inquiets de ce qui allait se passer. Le général allait exploser. Finalement, le général n'a pas été trop méchant. Mais à la fin du conseil des ministres, au moment où tout le monde se levait, il a fait un signe, tout le monde s'est rassis, et il a dit avec sa voix inimitable « Je voudrais rappeler au ministre de l'Intérieur qu'en cas d'émeute, il faut savoir donner l'ordre de tirer !» Alors là, tout le monde sous la table, sauf qu'il peut général. Bon, mais le général, lui, c'était un homme d'État. Il savait très bien que dans certaines circonstances, il faut effectivement savoir donner l'ordre de tirer quand il y a des émeutes. Bon, alors il se trouve qu'il a eu un préfet de police, M. Grimaud, qui avait parfaitement compris que les fameux émeutiers n'étaient jamais que les fils de toute la bourgeoisie parisienne, que ça allait faire des dégâts si on tirait dedans le tas. Donc voilà, c'est plutôt les CRS qui en ont pris plein la tête, tant pis. Bon, mais donc voilà, c'est... Et tout de suite après, De Gaulle a débarqué le ministre de l'Intérieur, je ne rappellerai pas son nom, et a nommé Marcellin avec ordre de remettre de l'ordre. Bon, ben Marcellin, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, il nous a tapé dessus. Voilà, bon. Hein. Alors, il nous a tapé dessus de différentes manières. D'abord, il a infiltré des gens dans les groupes, hein, parce que le préfet de police avait tous les soirs le rapport sur les dernières discussions de la direction de la gauche prolétarienne, etc. Bon. Et puis, avant les vacances, en 1970, si je me souviens bien, il a fait arrêter Alain Gessmard et quelques autres qui n'ont pas pu aller en vacances sur la Côte d'Azur. Bon, donc, ah oui, mais ça calme. Ça fait le révolutionnaire, quand même. Hein.
Prends des vacances.
Qu'est-ce que vous croyez? Bah, évidemment, en 68, hein, il y a eu mai, juin, puis après, il n'y a plus rien eu jusqu'à la rentrée de septembre. Hein. On était tous partis en vacances, quand même. Bon. Donc, voilà. Hein. Et puis il a infiltré. Et puis, il a tapé. Bon. Donc, il a mis en place les fameux voltigeurs. Mmh. Bon, les voltigeurs, hein, je rappelle, deux CRS à moto, un qui conduit et l'autre avec un gros gourdin derrière, hein, qui descend de sa moto. Bon, et je peux vous garantir que manif ou pas manif, etc., black bloc ou pas black bloc, etc., quand vous aviez 40 motos comme ça qui vous arrivaient dessus, eh ben, je vous conseille de savoir courir vite, très vite même, hein. Parce que même les types qui étaient un peu costauds, quand ils avaient pris deux, trois coups de bâton, parce que les gars qui étaient derrière, ils étaient formés à manier ce qu'on appelait le bidule. Hein, une espèce de bâton d'1m20 de haut par là, qui... Oui, ça fait très mal. Ils ne tapaient pas à la tête, hein, eux. Ils tapaient aux jambes.
Ça fait mal quand même.
Ça peut faire très mal. Bon.
Et ben, donc, voilà, sur cet excellent conseil.
Mais oui, mais... Non, mais vous avez bien compris que depuis la mort très malheureuse, parce que je ne crois pas, à ma connaissance, ce ne sont pas les policiers qui ont assassiné cet homme. Il est mort d'une crise cardiaque, le fameux Malik Oussekim. Les gouvernements sont tétanisés à l'idée qu'il puisse y avoir un mort.
Oh bah, bon. Sauf contre les gilets jaunes, quand même. Hein, ça, ils ont été ressuscités, les gouvernements. Là.
Écoutez, mais il y a eu de la casse. Non, mais attendez, nous, on a eu de la casse en 68 et après. Mm. J'ai des copains qui ont perdu la vue, etc. Attention, même moi, il m'est arrivé des bricoles. Donc, ça chauffait. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, quand on manifestait, ou quand on était dans la rue, hein, comme dirait M. Mélenchon, aller dans la rue, si on prenait des coups, on pleurnichait pas. On considérait que c'était normal. Comme la jeune garde, hein, notre sang sur le pavé. Bon,
la jeune garde, elle pleure. Donc,
mais la jeune garde, voilà.
La jeune garde, elle
pleure.
Et elle parle.
Oui, enfin, j'ai surtout l'impression que là, la jeune garde, elle pleure sur son sort. Parce que les types qui ont fait le coup, ils savent ce qui va leur arriver.
Normalement, ils en prennent pour 20 ans. Oui. Alors, malheureusement, le temps passe, on a débordé. Mais en tout cas, c'était vraiment un bonheur de vous recevoir, Stéphane Courtois. Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Je vous en prie.
Et on vous donne rendez-vous, j'espère, bientôt, puisque vous n'étiez pas venu depuis un bon bout de temps.
Oui, absolument.
Et j'espère qu'on vous reverra plus souvent.
Bon, je suis en principe toujours à disposition, sauf sauf si je suis occupé.
Et ben ça va. On en prend note. Merci encore.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.